et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, un polar belge social et terrifiant. Une pièce de théâtre avec un grand dramaturge et un roman qui vous emmènera dans les arbres avec le danger du fléau des frelons asiatiques. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
La librairie francophone est solidaire du monde du théâtre. Nous serons avec Olivier Py, qui dirige le Festival d'Avignon et qui publie une pièce époustouflante sur la condition humaine. Nous serons aussi avec Olivier Kemed, directeur du théâtre de Katsou à Montréal, pour faire le point sur la situation du spectacle vivant au Canada. La Belge Caroline de Mulder publie un polar très contemporain sur la détresse d'une jeunesse sacrifiée. Elle évoque les sites de rencontres, la violence et l'abus sexuel. Un livre choc sans concession. Où est l'espoir ? Nous en parlerons avec elle. Et puis nous irons dans les arbres avec un personnage élagueur, grand témoin du changement climatique, vécu par la nature et par les arbres. Il sera question aussi du fléau des frelons asiatiques qui nous mettent parfois en danger de mort. Christophe Bataille nous alerte avec un roman très réaliste. Et voici les libraires qui vont nous accompagner tout au long de ce programme. Nous allons faire d'ailleurs le point tout de suite sur l'ouverture et fermeture des librairies. En France, les librairies sont ouvertes. Thomas Auxerre, bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel. Eh ben oui, en effet, nous, on a la chance d'être encore ouverts. Oui.
Bon, vous êtes libraire à Puteau dans la librairie L'Amandier. Bonjour Katia Courtois.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada, libraire à Montréal, dans la librairie Le Port de Tête. Les librairies rouvrent au Québec, je crois.
Oui, en fait, on a réouvert le 8 février et on est évidemment très heureux. Les clients sont là au rendez-vous, sont nombreux, puis on est très heureux de pouvoir enfin leur parler et les voir.
Voilà, la date annoncée a été respectée et c'est plutôt bien. Cap sur la Suisse avec Dominique Bressou. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose, toujours fermée en Suisse, vous. Hein.
Oui, c'est fermé, mais en fait, on peut rouvrir le 1er mars.
Oui, c'est ça, c'est ce qui est annoncé.
Que les bibliothèques, les zoos et les musées.
Bon, on vous le souhaite. Enfin, en Belgique, on retrouve Déborah Damblon, libraire à Bruxelles, où c'est ouvert aussi dans la librairie La Licorne. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Une petite anecdote étonnante et drôle pour commencer cette émission dans la bonne humeur, Déborah.
Voilà, une petite anecdote mignonne, mais pour nous dire que, hélas Emmanuel, les livres ne font pas toujours de miracles. Voilà. Alors c'est un de nos bons clients, vous voyez, il faut visualiser un monsieur d'un certain âge, très grand, très très costaud, très très bon lecteur, et il arrive au magasin et il nous commande un livre qui s'appelle « Ventre plat ». Et quelques jours plus tard, il vient le chercher, il fait une petite pirouette sur lui-même et il dit « Regardez-moi bien, bientôt vous ne me reconnaîtrez plus ». Eh bien, c'est pas que je veux condamner le livre en question, hein, mais on l'a toujours reconnu.
Vous êtes terrible, vous êtes un monstre, Déborah, avec vos clients.
Pas du tout, je l'adore. Bon. Le sait.
Ventre plat en même temps, oui, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles avec un livre. Il faut faire autre chose hein, pour avoir un ventre plat. Merci pour cette histoire, Déborah.
Et quoi que l'on fasse, on se place sous un ciel déchiré. La nature s'embrasse, je suis au cœur du brasier. Et je brûle, et je brûle, et je brûle pour toi. Et je brûle, et je brûle, et je brûle pour toi.
Ce titre du chanteur suisse Polar qui illustre parfaitement le nouveau roman de Christophe Bataille. Bonjour Christophe.
Bonjour Emmanuel.
Vous connaissez ce titre-là ?
Non, pas du tout, mais je le trouve magnifique.
Ah, on dirait même qu'il a été fait pour votre histoire.
Ah oui, c'est fou.
Parce que votre personnage brûle, il brûle d'amour, il brûle de voir la nature victime du réchauffement climatique et il brûle physiquement après une attaque de frelons asiatiques. C'est un élagueur qui respecte les arbres. C'est ce genre de personne qui voit mieux que nous le désastre climatique, Christophe Bataille ?
Oui, parce que depuis qu'il a 16 ans, cet homme est une sorte de héros de Jack London. Il se roule dans l'herbe, il regarde les ruisseaux, il regarde les rues, il regarde les pierres. Et puis depuis qu'il a 16 ans, il vit avec cette jeune femme dans ce centre historique de la France, près de Bourges. On dirait un tableau Jean-Baptiste Millet, il fait de la mob, comme on disait autrefois, il sent le kérosène, la sueur, il aime le monde des arbres, il y monte, mais rien ne l'avait préparé à ce qui s'est passé il y a 7 ans, quand il me l'a raconté, et qu'il a soulevé les manches de sa chemise, qu'il a ouvert sa chemise, pour me montrer la brûlure à laquelle moi, pauvre urbain un peu niais, je ne croyais pas vraiment.
Ah donc il a existé vraiment?
Ah, il existe
toujours.
Il existe toujours.
Parce que du coup, il est pas mort, parce qu'il a, on va le voir, hein, parce que sans piqûre de frelon asiatique.
Il est pas mort. C'est un cas unique de survie, parce qu'en fait, en théorie, on dit qu'au bout de 2-3 fois, le cœur explose après 2-3 piqûres de frelon asiatique.
Oui, c'est ça.
Et lui a survécu, et comme on comprend à la fin du livre qu'il est déjà tombé à 22 ans, je pense qu'il a un certain caractère.
Alors, c'est un livre très poétique qui raconte comment cet homme a pris soin des arbres toute sa vie. Il dira même que les arbres sont supérieurs à l'homme par leur longévité.
Oui, parce qu'il raconte comment, dans une dernière partie, comment à 30 ans, il a marché pendant quelques heures, pieds nus, dans un olivier de 5000 ans, et comment il a senti des ondes particulières. Et donc nous, là-dedans, pauvres humains, on n'a vraiment rien compris, on est des prédateurs, et maintenant la nature se revanche en quelque sorte. Moi, je pense toujours à ce poème que j'ai appris en première, comme on fait à l'école, ce poème de Vigny, où on disait « Ne me laisse jamais seul avec la nature, car je la connais trop pour n'en pas avoir peur. »
Alors vous écrivez, les arbres ont une intelligence supérieure à la nôtre, attaqués de toutes parts, ils vont réussir à vivre 150 ans. Le bois a une force, une plasticité, et l'homme, du pauvre bois.
C'est exactement ça, et là je me sentais à vélo aujourd'hui, du pauvre bois sur les quais de la Seine. Je vois les coureurs parisiens, ces pauvres urbains comme il dit, alors que Philippe, lui, vit dans le grand vivant. C'est-à-dire que chaque matin, il se lève et chaque matin, il laisse sa femme et il risque sa vie et il monte tout là-haut à 30, 40 mètres dans ce qu'il appelle la sphère. Et dans cette sphère-là, on peut faire qu'une seule chose à la fois. Sinon, on risque de tomber.
Et puis un jour, alors, il monte dans un érable plane, un arbre de très grande taille. À 20 mètres, il entend un bourdonnement. Il s'est approché d'un nid de frelons asiatiques et là, c'est le drame, comme on dit.
Exactement. Et lui qui est prêt à tout, lui qui est un professionnel, une sorte de héros un peu à la Giono ou mythologique, c'est-à-dire qu'il est à la fois un technicien et un poète, ce jour-là, il entend ce son, il sait qu'il a 1 minute pour descendre, et le temps qu'il descend en 1 minute, avec son équipement, son matériel, il est piqué 130 fois, et il tombe dans une sorte de catalepsie. Et désormais, c'est sa femme qui va raconter la suite de l'histoire.
Alors c'est vrai que les frelons asiatiques ont des nids énormes, parfois, surtout dans les arbres, de la taille de plusieurs ballons de basket. C'est assez joli d'ailleurs, hein, mais certains peuvent contenir 7000 à 8000 insectes. Et quand les frelons vous ont repéré, parfois ils vous repèrent pas tout de suite, hein, ils se sentent donc en danger forcément, ils sortent du nid, tous, et ils attaquent. Il y a des vidéos effrayantes hein, sur internet effrayantes. D'ailleurs avec des professionnels qui montrent ça, c'est terrible. Et se faire piquer 100 fois, c'est la mort assurée.
Or lui a été piqué toute sa vie, il a maintenant 40-50 ans, toute sa vie il a été piqué par des phasmes, des frelons, des araignées, grattés par des chenilles. Il n'a pas peur de ça, ce n'est pas nous au bord de la Seine si je puis dire.
Mais vous cette parlez
vision...
de vous, ouais.
Mais cette vision, il parle de moi exactement. Mais cette vision démoniaque là, presque biblique, il n'y était pas prêt. Un jour, les frelons asiatiques auront été curés, soignés, nettoyés, mais il y aura autre chose parce que ce sont les grandes chaleurs. Et dans ces grandes chaleurs-là, à la fin des étés, désormais, des animaux dangereux apparaissent.
On va parler ensemble des grandes chaleurs avec les pieds nus sur le carrelage dans une maison. Quand on ressent la chaleur là, c'est qu'il y a un truc qui va pas. On va laisser la parole à nos libraires, Christophe Bataille, la Suisse et le Canada. On commence par qui, Christophe?
La Suisse.
La Suisse, allons-y. Dominique Bressoux, c'est à vous.
Oui, moi je suis extrêmement partagée sur ce livre, parce que autant le sujet m'a interpellée, autant j'en ai trouvé la lecture difficile. Parce que les effets de style extrêmement travaillés, les allusions cachées ou non à des scènes bibliques, font que j'ai fini par perdre de vue les personnages de ce livre, et même le message transmis. Moi, le vertige m'a pris et je n'ai pas pu vous suivre dans les hauteurs de l'intellectualisme.
Carrément. Pourtant, il y a plein de choses, il y a plein de thèmes. Le livre est assez court. On va voir du côté du Canada, Katia Courteau.
Alors, je ne suis pas d'accord avec Dominique.
Oui, ben moi non plus. Ouais.
Pour moi, bon, il faut dire que j'aime le style. Moi, j'aime quand un roman a du style. Et là, j'ai été servie. Quelle finesse et subtilité dans votre écriture. Christophe Bataille, vous oscillez entre la douceur extrême et la violence jusqu'à un équilibre parfait. Je suis encore à la fois sous le choc et le charme, marqué aussi par cet hommage à la nature qui est presque de l'ordre du mystique. Pour reprendre vos mots, vous m'avez donné la sensation d'être dans la main de l'arbre. J'ai terminé votre livre depuis déjà quelques jours et il m'habite encore.
Voilà, les avis partagés, Christophe Bataille, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il y a cette canicule décrite. Vos personnages sentent la chaleur dans tout leur corps. Ça commence par nos pieds sur le carrelage, on le disait. Quand on ressent la chaleur pieds nus dans une maison, ce n'est pas normal.
Et en fait, ce qui était, moi, je me suis amusé à inverser tout, me dire au fond, ce n'est plus les hommes qui posent une maison au centre de la nature, c'est la nature qui rentre dans la maison. Et donc, on est avec ce couple. Moi, j'ai envie de vivre avec eux, parmi les tissus, les livres, les vêtements. Et la nature rentre dans la maison chaque jour, c'est terrible.
Il y a beaucoup de nostalgie dans ce roman. Il y a une phrase qui m'a marqué. Vous écrivez à propos de la maison de famille du narrateur. Dans une maison, il manque toujours quelqu'un.
Oui, parce que j'ai le sentiment que le véritable personnage a sa famille, il a des enfants, il a fait sa vie. Moi, j'en ai tiré un roman. Et en fait, dans ce roman-là, il y a une figure un peu énigmatique qui est à la fois l'enfant et l'arbre, et peut-être l'homme. Et j'espère que ce travail sur l'arbre l'aide à trouver quelqu'un, qui est peut-être lui d'ailleurs. Je pense qu'on peut le voir de façon non intellectuelle et penser qu'à se toucher, à se caresser, à être avec cet arbre, on est encore digne de la nature, digne d'avec elle, digne de continuer avec elle.
Oui, cette communion avec la nature que vous décrivez tout au long du livre, vous écrivez « Les hommes ont perdu la nature, c'est triste, et un peu plus loin, la nature nous tient, la nature nous déséquilibre ».
Et c'est vrai que moi j'espère que le combat poétique, en général quand je dédicace le livre, je dis que c'est un pacte d'amour contre la fin des temps, c'est ce que je vous ai écrit d'ailleurs, j'espère que le combat poétique n'est pas réservé aux intellectuels, aux scientifiques, aux militants, à Greta Thunberg, le combat contre la fin des temps, il est aussi dans l'écriture, il est aussi dans la grâce, il est aussi dans la beauté.
Le combat contre la fin des temps.
Le combat contre la fin des temps. Et je crois que c'est ce que vit Philippe, qui ne peut plus vraiment monter aujourd'hui dans les arbres parce qu'il a peur.
Et alors vous pensez justement que ces fléaux, comme les frelons asiatiques, c'est l'un des témoins de la fin des temps, comme vous dites?
En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. On sait qu'il y a eu des démons qui ont existé dans l'histoire, des plaies successives, etc. Mais ce qui est certain, c'est que cet homme expérimenté, qu'on pourrait trouver chez Alain Cavalier ou chez Giono, à 40, 50 ans, il a rencontré un être humain démoniaque qui le regarde et qui est au bord de le tuer. Ce qu'ils n'avaient jamais vu.
C'est vrai que c'est un vrai fléau parce qu'ils ont un dard de 6 à 7 millimètres. Je ne sais pas ce qu'il vous a raconté, les lagueurs, mais je crois que c'est ça.
Ah ben on voit les piqûres sur le corps. Il m'a montré son bras et le bras est brûlé comme au troisième degré. Et
La
piqûre brûle. Ouais. Et c'est une sorte de cauchemar géant. Pendant des jours et des jours et des jours, l'être est plongé dans des visions, des apparitions. On se croirait chez Cronenberg.
Vous dites que c'est le changement climatique, mais aussi la mondialisation avec les transports de marchandises qui ont permis aux frelons de s'installer comme ça en Europe et de s'y sentir plutôt bien. Il est plutôt à l'aise.
Moi, j'aime beaucoup cette histoire. L'idée qu'en fait, des cargos transportaient des palettes avec des tuyaux, des ordinateurs, etc. Et qu'au milieu, peut-être, il y avait un nid, un frelon. On connaît ça aussi pour les perruches vertes en Île-de-France.
Oui,
et sans être un grand connaisseur du monde animalier, la mondialisation, c'est ça aussi. Mmh. Elle a commencé là.
Alors, les perruches, ça va?
Les perruches, ça va, mais ça tue beaucoup d'animaux.
Oui, mais ça chante, c'est joli.
Et les frelons asiatiques, ça tue notre miel.
Et les frelons asiatiques, ça tue les abeilles.
Et ça tue les abeilles.
Ouais, parce que ça vampirise les ruches et les abeilles. Exactement. Et surtout, c'est un danger de mort pour l'homme. Aujourd'hui, vraiment, c'est très, très dangereux. Ou deux qui vous attaquent, c'est compliqué.
Très dangereux.
Bon. Voilà. Vous saurez tout cela en lisant ce livre incroyable, La brûlure de Christophe Bataille. Il y a une grande histoire d'amour. Il y a cette histoire aussi de l'élagueur avec la passion des arbres et puis les frelons asiatiques. La brûlure est paru chez Grasset. Merci beaucoup Christophe. À bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
La chronique des libraires, première partie avec les coups de gueule et les coups de cœur. Thomas Auxerre en France, un coup de gueule.
Eh bien oui, Emmanuel, alors là, je vais un peu causer arrière-boutique et ça parlera à ceux qui s'intéressent au monde du livre. Mais en ce début d'année, trois de nos éditeurs historiques en France, hein, Le Seuil, Olivier et Métayer, viennent de se faire racheter par plus gros qu'eux. C'est le distributeur MDS. Alors ça parlera qu'aux initiés, hein, mais moi ça me désespère en fait, Emmanuel, qu'il y ait de moins en moins d'acteurs économiques indépendants les uns des autres et de plus en plus de gros groupes concentrés. Ça fait moins de diversité, ça fait moins d'interlocuteurs commerciaux et puis moi ça m'inquiète pour l'avenir et puis franchement ça m'agace. Voilà.
Oui, on entend, c'est vrai, un risque pour la diversité et pour l'indépendance surtout, avec ces éditeurs qui fusionnent. Merci Thomas pour ce coup de gueule. Déborah Damblon en Belgique, un coup de cœur.
Ah oui, un grand, immense coup de cœur, Emmanuel, pour un livre, figurez-vous, qui est sorti en 1987. Ce sont Les Éblouissements de Pierre Mertens, notre grand auteur national. Il a même été couronné par le prix Médicis à l'époque. Et c'est un récit éblouissant, justement, qui s'empare du personnage de Gottfried Benn, qui est un poète allemand proche du régime nazi un temps. Et c'est vraiment un des personnages les plus étranges, les plus déstabilisants, les plus ambigus qui m'aient été donné de lire. Et merci, merci au Seuil d'avoir ressorti en poche ce livre majeur qui n'a pas pris une ride, hélas, ai-je envie de dire.
Ouais, Pierre Mertens aux éditions Point en poche, Les Éblouissements. Merci Déborah. À suivre une grande séquence consacrée au théâtre avec Olivier Py et Olivier Quémède entre la France et le Canada. Ce sera après la chanteuse Iseult dans la librairie francophone. Iseult qui a reçu le prix de la révélation féminine aux dernières victoires de la musique en France.
Un télépile et ton prénom. Tu sais très bien que je vais céder la première. Tu sais très bien comment me faire vriller la première. Tu connais la chanson, ne me mens pas. Tu connais mes envies et j'en passe et j'en passe. Tu sais très bien que je vais céder la première. Je ressens dans mon corps, dans ma tête. Je le sens dans mon cœur, dans mes veines. Ton parfum, ton cri, dans mes draps. Ton prénom est un délire dans mes pensées. Comment me faire rêver, tu sais faire. Tu sais très bien comment te défiler, tu sais faire. Tu connais la chanson, ne me mens pas. Je connais toutes tes vices et j'en passe et j'en passe. Tu sais très bien que je vais replonger la première. Je ressens dans mon corps, dans ma tête, je le sens.
C'était Iseult avec Indélébile.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Queyrade.
Et bonjour Olivier Py.
Et bonjour.
Merci d'être avec nous une nouvelle fois dans la librairie francophone. Vous êtes un peu chez vous ici.
Mais j'espère.
Non mais c'est vrai. Nous allons parler de la situation du monde du théâtre en Europe et au Canada avec notre invité Olivier Quémède à Montréal aussi tout à l'heure. Avant cela, parlons de votre nouvelle pièce de théâtre parue chez Actes Sud Papier. Une tragicomédie en trois actes, poétique, qui fait une sorte de bilan de la condition humaine. Elle est triste et désespérante, cette condition humaine, Olivier ?
Oui, il y a une sorte de motif dantesque puisqu'il y a un purgatoire. Un enfer et un paradis. Donc je m'excuse, mais il faut aller jusqu'au bout pour trouver la lueur d'espoir. Je crois que la dernière pièce est au contraire pleine de sérénité. Mais enfin, les deux premières font certainement le récit d'une dépression.
Alors, vos deux personnages, un couple qui se sépare, semblent à vouloir se libérer de leur purgatoire en jouant des rôles ou en faisant de la musique. L'art nous décale comme ça de notre réalité de mortel, vous pensez ça, vous ?
En tout cas, l'art n'est pas une consolation. C'est même le contraire d'une consolation. Ce serait plutôt une sorte d'état de conscience qui nous foudroie. C'est vrai que la première pièce est assez psychologique, en quelque sorte. La souffrance psychologique, c'est le purgatoire. Dans la seconde, il y a un voyage imaginaire dans tous les lieux les plus déshérités de la Terre, qui ressemble vraiment à un voyage dantesque. Et puis dans la troisième, il y a simplement le dialogue entre un homme et un adolescent. J'avais lu cette phrase de Bernanos qui dit « on sera jugé par l'enfant qu'on a été ». Alors j'ai imaginé que je le rencontrais, cet enfant que j'ai été, et que nous faisions ce jugement dernier.
Alors vous évoquez les neuf cercles de l'enfer, hein, c'est cela en fait, les neuf cercles de Dante avec la Divine Comédie, neuf cercles que vous avez adaptés au monde contemporain. On y trouve les prisons pour migrants, le mur entre Israël et Palestine, ou encore l'Inde, la poubelle du monde. Le bilan est sévère, Olivier Pille, on ne peut que sombrer quand on est confronté à ces neuf cercles.
Oui, c'est vrai, je suis rentré un peu malgré moi dans l'apocalyptique, je crois. Je crois qu'en tout cas, on est face à une génération plus jeune que la mienne qui ne peut pas y échapper. Et vraiment, c'est une très grande différence avec ceux qui sont plus jeunes que moi. Nous découvrons l'apocalyptique, ils sont nés avec. Mmh. Oui, il est possible que le destin de la planète soit sous le coup d'une terrible fatalité. Alors comment on vit avec ça ? Comment on réinvente de l'espoir ou de la dignité, même pas de l'espoir, même pas de l'espérance, c'est trop métaphysique, mais simplement de la dignité.
Alors il est dit dans votre pièce qu'il n'y aurait pas d'autre solution que de faire illusion dans la vie. Donc avec un rôle par exemple, avec le théâtre hein, en ce qui vous concerne, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire illusion au point de tromper et de mentir ?
C'est dans la première pièce, en tout cas, où la possibilité de l'art se donne évidemment comme une illusion, parce que on n'a pas résolu le problème. Hein. Ça finit toujours de la même manière, la vie humaine. Donc il faut bien qu'on se crée une illusion, mais une illusion qui serait un véritable trésor, parce que vous savez que tout disparaîtra un jour, il n'y aura même pas de mémoire de Shakespeare, il n'y aura plus rien, le soleil brûlera, il n'y aura plus rien, ni Mozart, ni Shakespeare. Alors Olivier Pie encore moins.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, vous allez disparaître aussi. Alors.
Beaucoup plus tôt, je pense. Donc voilà, donc il faut faire avec ça, et on a cette illusion merveilleuse, magnifique, ces illusions, peut-être.
Alors votre personnage est poète dans l'âme aussi, écrire des poèmes, est-ce faire illusion, Olivier Pie ? Est-ce écrire ce qu'on veut en faisant croire que ça a un sens pour épater la galerie ?
Écoutez, c'est vrai que la pièce est écrite en dodécasyllabes, donc peut-être parce que j'ai eu un peu de temps pendant le confinement, donc j'ai eu le temps de mesurer un peu ma parole. Mais c'était surtout la volonté d'avoir une contrainte, d'écrire à partir d'une contrainte et que cette contrainte me permette au contraire d'aller plus loin. Je dirais plus loin qu'une pièce de théâtre. C'est le rêve toujours d'un auteur de théâtre d'être lu comme un poème et non pas comme un scénario en quelque sorte. Donc je me suis laissé aller à ce rêve et si j'écrivais un poème...
Vous ne répondez pas à la question, Olivier.
Écoutez...
Est-ce que c'est faire illusion à écrire des poèmes ?
Je crois que quand j'écris un poème, je fais ce que je peux faire de mieux. Tout le reste, finalement, n'a pas très grande importance.
Ouais. Mais vous écrivez des poèmes. Pas vraiment, vous écrivez du théâtre d'abord.
Oui, mais faire Racine aussi, c'est... Oui. Quel mépris pour le théâtre, excusez-moi.
Mais pas du tout, non,
mais
pas
si
du
le
tout.
Théâtre, si
moi,
le...
je parlais de votre personnage, qui aime écrire des poètes comme ça, pour un peu se distinguer, on va dire les choses. Vous le présentez comme ça, en tout cas.
Si le théâtre n'accède pas au poème, c'est pas la peine de faire du théâtre. Ouais. C'est vraiment pas la peine.
Bon, c'est bien, vous êtes convaincu, vous restez dans votre éthique habituelle. On va laisser la parole au libraire, Olivier Pie, ça vous va ? Avec la Suisse et la Belgique, on commence par Dominique Bressoux en Suisse.
Oui, alors parfois, vous savez, on peut être amené sous le coup de l'enthousiasme à dire « Celui-là, je le suivrai jusqu'en enfer ». Et là, sans volonté propre, on est attiré, aimanté par la magie des mots qui s'enchaînent. On a le cœur qui bat et l'angoisse qui monte, comme chez votre personnage. Alors je ne saurais jamais assez vous remercier d'avoir aussi écrit les dernières pages qui nous font entrevoir le paradis.
Oui, le paradis avec un jeune garçon rencontré au bord de la mer. On pense à Visconti, au film Mort à Venise à ce moment-là. Et dans le troisième acte nommé Paradis, ce jeune garçon dira « C'est pourquoi j'étudie l'art des mathématiques, pour devenir courtier dans une banque suisse, vendre à longueur de jour des produits financiers en pianotant sur mon écran d'ordinateur. Et de là, je pourrai régner sur la planète, régner sur le chaos et appauvrir les gens. »
Oui.
Sacré paradis.
Mais bien sûr, il ironise. Oui. Il ironise parce que son aspiration est essentiellement poétique. Voilà, c'est une aspiration à la transcendance. Mmh, je crois qu'il n'y a que les adolescents qui ont le courage de le dire, comme le font les adolescents, comme l'adolescent que j'ai été, évidemment. Et donc, il ironise sur les destins que peut-être lui propose sa famille. Lui, il rêve surtout de faire un grand saut dans la métaphysique. Et il trouve ce poète abîmé sur une plage, et ensemble, il bricole une espérance. J'aimerais qu'il le fasse avec tact, c'est-à-dire sans imposer de grandes choses théologiques, simplement en faisant le compte de ce que ensemble on pourrait encore recoller.
Ouais.
Pour que l'espérance ne soit pas tout à fait morte.
Il est très lucide parce qu'il dira aussi « Être un salaud complet, ce n'est pas si facile. Il nous reste toujours l'impératif moral. Il est très encombrant. »
Oui, c'est encombrant l'impératif moral, mais c'est encore plus encombrant de ne pas le comprendre ou de le refuser. Vous savez, comme Hamlet, finalement, le spectre qui vient lui parler, c'est l'impératif moral. Or, nous devons nous soumettre à un impératif moral, c'est-à-dire nous devons imaginer que nous pouvons vivre plus dignement.
S'affranchir, comme le dit votre personnage, s'affranchir du monde économique. Il dit à un moment, on a envie que je sois productif, on a envie que je sois un bon citoyen, mais moi j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de la reprise économique, j'ai pas envie de tout ça, j'ai envie de rester là et j'ai envie de rêver finalement, d'être un rêveur.
Déjà ça. Et puis donner à la vie intérieure toute sa place. Moi j'ai la sensation que la vie intérieure n'en finit pas de se cacher, d'être réduite, d'être condamnée par les exigences, les exactitudes du monde matériel. Alors, ça devrait être quelque chose de cet ordre, préserver ses rêves, tout simplement, ou préserver ses désirs, ou préserver l'ouverture, ou l'émerveillement. C'est souvent ce qu'un adolescent peut nous dire, parce que quand on est adulte, on a un peu honte de dire des choses comme celle-là.
On va laisser la parole à Déborah Damblon, qui est en Belgique, qui a adoré votre pièce, je crois, Déborah.
Ben oui, en tout cas, je trouve que si quelque chose nous hurle à la face qu'il faut rouvrir d'urgence les théâtres, c'est bien votre texte, Monsieur Pi, parce que je me le suis pris dans les dents, mais vraiment avec toute la violence de mon imagination. Quelle langue, quelle puissance, c'est dur, c'est fort, c'est implacable, mais décidément, vraiment, c'eût été plus abordable pour moi avec le recul de la scène, avec, vous savez tellement bien, cette dimension supplémentaire, et puis le temps qu'il faut pour avoir accès à tous ces mots, parce que ça nous permet, je trouve, de les mettre à leur juste place, et puis d'en relativiser la dureté, et de peut-être mieux voir les petites notes d'espoir.
Alors c'est vrai, Olivier Pi, c'est bien de lire des pièces de théâtre. Moi j'adore ça personnellement, mais il faut les voir sur scène. Alors justement, régner sur le chaos, comme vous le dites, cela résonne avec ce que l'on vit en ce moment. On en parle très peu, mais beaucoup profitent de la situation instable actuelle pour régner sur le monde. À commencer par les laboratoires, bien sûr, mais aussi la spéculation immobilière, le monde de l'alimentaire, certains médias aussi, disons les choses. La crise sanitaire permet à certains de s'enrichir ou de se faire remarquer. Et là, les théâtres, le monde de la culture est un peu relégué au second plan.
On ne peut pas se départir d'une certaine colère parce que nous savons que cette interdiction pour les théâtres et les cinémas de réouvrir n'est pas de l'ordre du sanitaire, qu'elle est de l'ordre du politique. Et encore, le politique, c'est un bien grand mot pour cette non-décision ou cette absence de décision. En réalité, c'est de la communication. Donc c'est une stratégie de communication un peu minable, il faut bien le dire, parce que nous savons accueillir le public, prendre toutes les précautions sanitaires. Je l'ai même moi-même fait à Avignon au mois d'octobre. Nous savons qu'il n'y a pas de contamination, qu'il n'y a pas de cluster, qu'on est beaucoup plus en danger quand on est dans sa famille que quand on est dans un théâtre. Et malgré tout, les théâtres sont fermés.
C'est pas un raccourci, ça, dire ça, Olivier Pi, parce qu'on l'entend beaucoup, ça. On est plus en sécurité dans un théâtre ou un cinéma que dans sa famille. C'est pas forcément vrai, ça.
C'est vrai.
Une image, c'est de la communication,
non,
comme
c'est
vous
vrai.
Dites.
C'est vrai, parce qu'à Madrid, par exemple, où les théâtres sont restés ouverts, il n'y a pas eu de contamination.
Oui, oui.
Et puis, en ce moment,
oui, avec les masques, il y a moins de risques.
Il y a des simulations. Roselyne Bachelot est en train d'organiser des simulations démonstration pour prouver par A plus B, s'il le fallait, que il n'y a pas de raison sanitaire que les théâtres soient fermés. Il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas imaginer autre chose qu'une sorte de mépris pour l'inessentiel de la culture. Je m'excuse moi aussi de répéter jusqu'à la nausée ces arguments, mais enfin, il n'y a pas besoin d'en avoir d'autres.
Quel est le risque, Olivier Py? Le monde du théâtre non subventionné va-t-il pouvoir se relever au final?
Le monde du théâtre public et le monde du théâtre privé se relèveront, bien évidemment, mais enfin, il y aura des destins qui seront interrompus. Je pense pas simplement aux institutions, mais aussi aux individus, aux techniciens, aux artistes, qui pourront pas continuer, qui vont pas pouvoir continuer, qu'ils ne referont pas les heures plus tard, parce que...
Ouais, le problème, c'est les comédiens, les techniciens, tous ceux qui travaillent pour le monde du spectacle vivant, qui aujourd'hui ne travaillent pas.
Qui peuvent abandonner. Et oui. Et puis, je pense aussi aux jeunes, à ceux qui rentrent dans ce métier-là et qui commencent par une interdiction, une immobilité. C'est difficile. Enfin, on va en sortir. Croisons les doigts.
Bon, partons à Montréal où se trouve en ce moment Olivier Kemed, directeur du célèbre théâtre de Quatsou, une institution au Canada. Bonjour Olivier.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Cette semaine, le gouvernement québécois a décidé de rouvrir progressivement les établissements culturels, les cinémas notamment, mais pas les théâtres. Ça vous met en colère, ça?
Oui, alors tenez-vous bien, il y a une déclaration assez extraordinaire qui confirme que ce qu'a très bien décrit Olivier Py résonne complètement chez nous. Donc notre premier ministre a dit, c'est la semaine de relâche pour les jeunes étudiants et pour les jeunes enfants, et ils ont davantage besoin de cinéma que de théâtre. Donc rouvrons les cinémas, mais pas les théâtres.
Oui, dit parce que les enfants préfèrent voir des films, je cite.
Ouais, voilà, ben oui, évidemment, nous, alors je sais pas... C'est formidable, tout le pan du théâtre jeune public qui depuis des siècles tente de présenter des œuvres. Mmh. Enfin, tout a été relégué comme ça aux oubliettes, mais ça confirme, je dirais à la fois l'absence de décisions politiques ou alors des décisions politiques vraiment très fermes pour exclure le théâtre de la cité.
Mmh. Olivier Py, vous avez fait des pièces de théâtre pour les jeunes, pour les enfants.
J'en fais toujours. Chaque année à Avignon.
Alors c'est mieux une pièce de théâtre ou un film pour un enfant?
Mais les deux, ça ne s'oppose pas une seconde, ni à un concert, ni à une visite au musée. Là, on est face à l'inculture des inclus, il faut bien le dire.
Olivier Kemed, en même temps, la situation est complexe, vous le dites d'ailleurs, parce que la jauge est importante. Jouer avec moitié moins de public, ce n'est pas toujours viable financièrement. Et il y a certains théâtres qui ne veulent pas rouvrir dans ces conditions-là. Alors du coup, ça complique les choses sur le plan politique, sur le plan moral, sur le plan culturel. Tout se mélange.
Oui, je crois qu'il faut laisser la place aux artistes, au théâtre, de décider. Chaque théâtre est différent, chaque mandat est spécifique. Il y a des publics, il y a des jeunes publics, il y a des publics plus vieux. Il y a des théâtres qui sont prêts à jouer à 25% de jauge. Nous, c'est une petite salle, le théâtre de Quatsou, c'est 170 sièges. Quand on a eu le droit d'ouvrir en septembre dernier, on était à 50 places. C'est minime. Mm-hmm. Mais c'est une salle intime, le Quatsou. Il y a quelques types de spectacles qui peuvent se prêter à cette intimité. C'est ce qu'on a fait pendant un mois. On a eu le temps de jouer à peine, mais il y a eu une fébrilité extraordinaire sur scène comme dans la salle. Une fébrilité d'ailleurs et un entrechoc de présence que ne pourra jamais remplacer l'écran.
Ouais. Comment vous le voyez, cet avenir pour le monde du spectacle vivant au Québec?
Ouais, on partage les craintes formulées par Olivier, hein. C'est le problème d'embouteillage. Tous les spectacles qu'on est en train de reporter ne tiendront pas nécessairement dans les calendriers. Il y aura des abandons. Effectivement, je pense aux techniciennes, aux techniciens, aux conceptrices, aux concepteurs, aux finissants des écoles de théâtre. La déprime est assez forte, donc beaucoup de craintes de ce côté-là. Et en même temps, on se nourrit d'espoir parce qu'on sait une chose, c'est notre seule certitude, c'est que le public, lui, il sera là, soif, il est prêt à venir, il est prêt à mettre le masque. On le sait, on se fait écrire chaque jour par nos spectateurs, nos spectatrices. Le jour où vous ouvrez, nous serons là. Ouais. Et j'ai beaucoup plus confiance en lui d'ailleurs qu'en nos dirigeants.
Est-ce que si on imagine le masque obligatoire, bien sûr, et un siège sur deux, c'est tenable pour vous au Québec? Et après, je poserai la question à Olivier Py en France.
Bah, c'est tenable sur une courte période, tant qu'il y a un soutien évidemment gouvernemental. Mais oui, c'est faisable. On travaille sur ces modèles-là, on est capable pour un certain temps. Et ça m'apparaît primordial. Le fait de rester fermé tant qu'on n'a pas jauge pleine m'apparaît une grossière erreur.
Olivier Pille, un siège sur deux, oui, c'est
non,
c'est
ce n'est pas exactement un siège sur deux. C'est un siège libre entre chaque groupe de spectateurs.
Oui, c'est ça.
Groupe allant évidemment de 2 à 6.
Ouais.
Donc ça fait quand même une jauge qui est plus que 50%.
Ça augmente un peu. Ouais.
Nous, on imagine un festival d'Avignon qui pourrait avoir lieu dans ces conditions, avec une différence entre le plein air et les salles fermées. C'est vrai qu'il ne faut pas donner de leçons à quiconque sur ouvrir ou fermer, mais j'ai bon espoir qu'on ait un festival d'Avignon, peut-être pas exactement conforme à celui qu'on a connu précédemment, à ceux qu'on a connus précédemment, mais en tout cas, quand même, un festival quand même. Voilà, c'était la devise de Sarah Bernard, quand même.
Vous sentez-vous privilégié, Olivier Pille, dans le théâtre subventionné? Parce que certains disent, voilà, le théâtre subventionné va s'en sortir quoi qu'il arrive. Le festival d'Avignon va s'en sortir quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vous répondez?
D'abord, je ne dis jamais le théâtre subventionné, je dis le théâtre public. Ou alors, il faut dire l'école subventionnée. non, c'est un terme que je ne peux pas utiliser, d'autant plus que dans le privé, il y a aussi des subventions.
C'est
mais
vrai,
je suis privilégié, évidemment. D'abord, il n'y a pas eu de problème financier au Festival d'Avignon, même si on l'a dédommagé, tous les artistes et tous les techniciens, parce qu'il y a une subvention et que, heureusement, les tutelles nous l'ont versée. Donc oui, bien sûr, nous sommes privilégiés, ce qui ne nous empêche pas d'être solidaires avec ceux qui sont en grande difficulté.
Olivier Kemed, il y a ce soutien-là aussi au Québec, le soutien des théâtres subventionnés, publics, donc, comme dit Olivier.
Oui, jamais à la hauteur de certains pays européens. Je dirais qu'on est très grossièrement à mi-chemin entre soutien public européen et l'Amérique du Nord. Donc on en a un peu plus que nos confrères, nos consoeurs, par exemple, états-uniens. Mais néanmoins, oui, il y a une certaine forme de privilège de pouvoir avoir recours à des subventions étatiques. Cela étant dit, rien n'est éternel en ce bas monde. Je dis toujours que si nous avions tout maintenu, Montréal, la ville aux 1000 clochers, je vous parlerai sans doute d'une église ou en fait d'une synagogue. Le Katsu était une synagogue. Donc, des choses ferment, des choses tombent. On a vu des institutions culturelles s'effondrer pour toutes sortes de raisons. Donc, la fragilité, elle est là. Et elle fait craindre de nombreux organismes artistiques, malgré leur longévité, malgré le fait que ces organismes aient traversé de nombreuses crises. Je vous dirais que l'angoisse est réelle, oui.
Bien sûr. Bon courage à vous, Olivier Kemed. Merci d'être intervenu dans la librairie francophone.
Un grand plaisir, merci à vous.
Merci à vous, bon week-end à Montréal. Merci beaucoup Olivier Pille. Je rappelle votre pièce de théâtre Point d'orgue, donc à défaut de la voir, on peut la lire, elle est parue chez Actes Sud Papier, grande maison qui se consacre au théâtre et que l'on aime beaucoup ici. Félicitations pour cette pièce magistrale. Merci, vous êtes un grand
c'est
dramaturge,
gentil,
Olivier. À bientôt.
À bientôt, à très bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Les coups de cœur et les coups de gueule des libraires, deuxième partie, un coup de gueule au Canada, Katia Courteau.
Oui, Emmanuel, je lâche ce coup de gueule envers certaines maisons d'édition qui nous proposent de manière tellement racoleuse des romans pour la jeunesse. Depuis quelques années, un nouveau genre de premier roman est arrivé au Québec. Les romans écrits en gros caractères qui permettent une facilité de lecture, oui, et donnent l'impression au lecteur de lire un roman beaucoup plus consistant. C'est bien. Certains éditeurs le font très bien, mais ce n'est pas le cas de tous. Beaucoup proposent des séries de ce genre aux couvertures girly, aux textes inintéressants. Les lecteurs débutants y trouvent, c'est vrai sans doute, de quoi les attirer, mais avouons-le, la qualité d'écriture se fait parfois mince et ne satisfait pas toujours les plus jeunes lecteurs.
Et oui, il faut chercher la qualité, vous avez raison de le souligner. Merci Katia. Un coup de cœur en Suisse, Dominique Bressoux.
Oui, moi, c'est un coup de cœur pour un livre jeunesse, 12 histoires de Milady pour bien grandir. Comme vous savez, le confinement de 2020, il a quand même permis à des idées très créatives de voir le jour. Et à la RTS, il y a eu entre autres l'émission Brouhaha avec des histoires pour enfants de 3 à 12 ans, écrite par Christine Pompéi, qui est une auteure connue et très aimée chez nous. Et dans cet album, ce sont certaines de ses histoires enfin sur papier. Il y a une petite fée, Milady, qui parle aux enfants de leurs peurs, de leurs joies, des questions qu'ils n'osent pas poser aux grands. Un très, très joli recueil à offrir et à mettre entre toutes les mains et fait pour susciter les échanges entre les petits et les adultes.
12 histoires de 1000 idées pour bien grandir aux éditions Ozu. Merci Dominique. Dans un instant, un polar sombre sur une jeunesse sacrifiée par la violence sociale et sexuelle, mise à mal par les sites de rencontres. Ce sera après un fidèle de notre émission avec son dernier titre. Voici Gaël Faye dans la librairie francophone.
Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi, le week-end bien passé, t'as glandé la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir? Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon? Comme un lundi. Comme un lundi. Comme un lundi. Un lundi méchant. Comme un lundi. Comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. Et chaque semaine on reprend la rengaine en se disant demain sera peut-être mieux. On affronte et combat certains problèmes en achetant de petites pilules bleues. On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être, on essaye de faire comme l'on peut. On court après le bonheur à tout prix, le lundi au soleil, le moral est plus vieux. Comme un lundi. Comme un lundi. Comme un lundi. Semaine s'achève au compteur, s'ajoute, on en parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trousses. On se console en consommant notre confort, nous rend souvent si seuls et puis sans solution. Chaque dimanche revient ce cafard incessant, demain lundi sera méchant.
Je vais pas me laisser démonter et par bad vibes et morosité et pas se contenter mais tenter et sinon t'inventer et chauffer, chauffer, va t'entendre. Les pulsations des tympans, oh, chanter, chanter, c'est qu'encore. Écoutez, écoutez lundi méchant.
Comme un lundi. Comme un lundi. Comme un lundi. Un lundi méchant. Comme un lundi. Comme un lundi. Comme un lundi. Un lundi méchant.
Gaël Faye avec Lundi méchant.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et bonjour Caroline de Mulder.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous dans nos studios de Bruxelles. Vous publiez un polar social écrit dans un style contemporain, inspiré par le langage de certains adolescents avec des expressions et des raccourcis de langage dans l'esprit réseaux sociaux et SMS. Il vous arrive de parler comme ça ou vous avez enquêté? LOL, comme on dit.
Non, je ne parle pas souvent comme ça, mais effectivement, on a à notre disposition beaucoup de matériel, à la fois dans la vraie vie et du matériel virtuel aussi, pour se rendre compte de ce qu'est ce langage.
Ouais, alors Manger Bambi fait référence au personnage de Bambi, qui doit se débrouiller seul après la disparition de sa mère. Bambi, c'est votre personnage principal. Elle a 16 ans tout juste, et elle a compris qu'avec les sites de rencontres, elle peut faire chanter certains hommes vicieux en dehors des clous.
Oui, absolument. Alors moi, j'ai cherché, je cherchais un moyen d'explorer la violence féminine, qui reste un sujet tabou. Le fait de ne pas parler de cette violence féminine, c'est en quelque sorte amputer les femmes d'une partie de leur humanité. Bambi va l'exprimer en cherchant effectivement des pigeons sur des sites de rencontres, des sites de sugar dating, qui sont en réalité une forme à peine masquée de prostitution, hein, le sugar dating. Et donc je me suis fait effectivement pour la cause des profils factices du côté daddy et du côté baby. Et rien qu'en y traînant un peu, on peut déjà dire que la réalité, elle n'est pas très glamour.
Alors on a un peu mal à l'aise, Caroline, quand on lit votre livre, car cet ado va inciter ses hommes à faire des écarts. Elle va en profiter pour les menacer ou pour les dépouiller. Elle est à la fois la victime et la criminelle.
Oui, à première vue, effectivement, ça a l'air d'être une victime. Quand on y regarde de plus près, elle n'est peut-être pas victime de ce qu'on croit, hein, ou de ce qu'elle croit elle-même. En fait, elle est surtout victime d'elle-même, je dirais. Et ensuite, effectivement, comme vous le dites, elle est autant bourreau que victime. Hein. C'est une victime devenue bourreau, redevenue victime d'elle-même et d'un environnement qui refuse de lui accorder ne serait-ce que l'idée de la violence, enfin comme mode de défense. Hein. Donc c'est un personnage qui est ambigu et complexe qui est difficile à classer.
Alors sa violence n'a pas de limite, hein, parce que sa mère est alcoolique et cette mère n'hésitera pas à se servir d'elle pour acquérir un confort avec ses hommes de passage. Elle sera en quelque sorte l'appât, la jeune fille dont on peut disposer. Et on est dans une société comme ça où ces abus sexuels sur mineurs sont courants, c'est terrible à dire, mais on réalise enfin que ce n'est pas si rare qu'on veut le croire. Et tout ça, donc, si on lit votre livre, ça mène à la violence, Caroline de Mulder.
Oui, alors, ça mène Bambi à la violence. C'est pas le seul moyen de s'en sortir, mais effectivement, pour certaines personnes, dont ma Bambi, c'est le seul moyen de s'exprimer, le seul moyen qu'elle ait trouvé.
La violence qui engendre la violence, hein, du coup, puisque l'abus sexuel est bien sûr une violence insoutenable. On va laisser la parole à nos libraires, Caroline, qui ont lu votre livre. On va commencer par la France, tiens, avec Thomas Auxerre.
Alors oui, bah moi, même si je pense que je ne vais pas forcément conseiller votre polar à tout le monde, car l'histoire est dure et il est rare, surtout en ce moment, hein, avec le confinement, qu'on demande des livres après sombre, bah moi, j'ai aimé votre livre, et puis surtout votre héroïne, hein, Bambi, un peu limite, et puis surtout sans concession. Son côté dur à cuire et en même temps son côté enfant perdu, bah moi, je trouve, fonctionne très bien. Et puis, vous l'avez dit, hein, ce qui est génial, c'est l'écriture, les dialogues, on sent que c'est peaufiné, l'écriture. Ça donne un côté très urbain, et c'est féroce. Vraiment, moi, je recommande.
Ouais, ça, c'est féroce, c'est moins qu'on puisse dire. Katia Courtois, au Canada, êtes-vous d'accord?
Oui. Tout à fait. J'ai trouvé que c'était une histoire troublante et qui remue, c'est vrai. C'est vrai aussi que quelques mots ont échappé à la Québécoise que je suis, l'argot étant très présent dans les dialogues. Mais vous avez un style si fort et redoutable que j'ai adhéré, complètement captive de votre écriture et vos personnages de Bambi. Malgré toute la noirceur qui se soulève à la lecture de votre roman, je me suis même surprise à rire quelquefois en compagnie de ces jeunes filles, tant votre écriture est imagée et incarnée.
Oui, c'est très incarné, Caroline de Mulder. Il y a des passages très durs aussi. Vous voulez réagir au libraire déjà, Caroline ?
Je les remercie pour leur lecture. C'est vrai que des avis positifs de libraires, pour moi, c'est extrêmement important. Merci beaucoup.
Il y a chez cette jeune Bambi une envie farouche de se venger des hommes, même à l'école avec un gamin de 14 ans. Elle va l'humilier, le frapper, le souiller pour lui montrer qu'il est et qu'il sera plus faible qu'elle. Qu'est-ce qui la motive dans ce déchaînement de violence là ?
En réalité, elle reporte sur quelqu'un, bon, qui n'est pas innocent non plus, hein, parce que voilà, il a quand même effectivement, il fait partie d'une bande qui a embêté une de ses amies. Elle reporte la violence à laquelle elle est confrontée elle-même, elle la reporte sur d'autres, éventuellement plus faibles. Pour elle, effectivement, il n'y a pas cette limite-là. Ses seules limites, en fait, c'est l'amour qu'elle ressent pour sa mère, malgré tout, hein, elle essaye de sauver sa mère. Et pour ses amis, avec qui elle monte toutes sortes de coups un peu foireux quelquefois, effectivement.
Oui, c'est ça. Il y a ce phénomène de bande que vous expliquez très bien avec cette violence. On le voit, hein, dans les faits divers en France et un peu partout dans le monde. Il y a toujours ça, ces faibles qui se font massacrer par une bande, qui se vengent. Quel est l'espoir pour ces jeunes ados qui vivent la détresse sociale et donc, dans votre cas aussi, le viol? Mais quel est leur espoir, finalement, s'ils veulent se sortir de cette violence-là?
Alors c'est une question très vaste. Je pense que ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre, justement de sa combativité.
Mais qu'est-ce que vous en déduisez, vous ? Qu'est-ce que vous en retenez de ce livre que vous avez écrit ? Vous avez plongé comme ça dans cette violence pendant plusieurs mois, je suppose.
Oui, même plus que ça. Alors, moi, en fait, cette réalité sociale, je n'essaye pas de la dénoncer. En réalité, j'ai pris une tranche de réel et j'ai essayé de la sublimer au sens presque alchimique du terme en une fiction. Hein, alors que cette tranche de réalité, elle soit belle ou vilaine, qu'elle plaise ou non, en fait, c'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est de transcrire et de transformer une tranche de réel en fiction. Et ensuite, l'espoir, eh bien, je préfère laisser au lecteur le plaisir de découvrir si Bambi s'en sort ou pas.
Ouais, bah, pas tellement.
Quelles sont les possibilités? je suis moins catégorique que vous.
J'ai trouvé très sombre. Votre livre, hein, Caroline. Je ne sais pas si c'est ce qu'on a envie de lire en ce moment d'ailleurs, parce que c'est vraiment dur. La pauvre Bambi, elle en voit de toutes les couleurs.
Alors moi, je trouve que la fin, elle est paradoxalement, mais particulièrement lumineuse.
Ah ouais, bon. L'espoir, en tout cas, ça a l'air d'être de partir à l'étranger, au soleil. C'est un peu ce qu'elle aimerait faire avec sa copine, c'est de partir, de quitter tout ça.
Oui, alors effectivement, elles rêvent d'autre chose, elles rêvent d'ailleurs, et au fond, elles adhèrent aussi un peu à toutes les rêveries bidons qu'on nous vend, hein, les plages de sable chaud en Thaïlande, etc., les marques, le luxe, le...
Ouais, cette illusion.
Se résume au pognon, ouais, c'est ça. À l'argent.
L'illusion, ouais. L'apparence, on en parlait avec Olivier Py tout à l'heure.
Oui,
c'est ça.
Exactement, oui.
Ouais. Bon, merci beaucoup, Caroline de Mulder. Merci d'être revenue dans la librairie francophone. On vous souhaite bonne chance, Emmanuel, pour votre roman Manger Bambi, donc, est paru chez Gallimard. Vous le qualifiez de polar ou de roman noir, vous ?
Moi, j'irais roman noir.
D'accord. Alors, je retire polar, c'est un roman noir. Merci, Caroline, à bientôt.
Merci, Emmanuel.
Chaque semaine, nous donnons la parole aux bibliothécaires quelque part dans la francophonie. Aujourd'hui, c'est la Belgique qui est à l'honneur. On vous emmène à Nivelles, au sud de Bruxelles. Bonjour, Marie Lequeux.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes bibliothécaire à la Bibliothèque centrale du Brabant Wallon à Nivelles. Que voyez-vous, que peut-on voir par l'une des fenêtres de votre bibliothèque ?
Ah, eh bien Emmanuel, moi je trouve que j'ai énormément de chance parce que là, de ma fenêtre, deuxième étage de la bibliothèque, j'ai une vue splendide sur la collégiale Sainte-Gertrude. Une magnifique église de style roman, et elle est plantée là devant moi, au milieu de la Grand Place. Et en plus de la vue, on a vraiment la chance ici d'avoir un carillonneur. Et il a préparé pour le mois de février des heures de carnaval. Et toutes les heures, on entend les cloches qui sonnent, ces heures de carnaval, et ça rythme la journée. Ah c'est oui. Vraiment un plaisir qui égaye la ville.
Oui. Pas mal, un décor de théâtre pour Olivier. Hein. Olivier, ça vous plairait ça ?
Ah oui, bah, surtout le carillonneur.
Oui, ils ont le carillonneur. Bon, quel grand classique avez-vous choisi pour la librairie francophone, Marie ?
Eh bien, Emmanuel, pour réveiller votre âme d'enfant, j'ai choisi un classique de la littérature jeunesse. J'ai choisi Babar.
Ah.
Tout le monde connaît Babar.
Oui. Hein, oui.
Le gentil éléphant, son costume vert, une silhouette vraiment reconnaissable entre mille. Mais est-ce que vous saviez qui a imaginé Babar ? Bien, c'est une maman, en fait, hein, qui racontait tout simplement des histoires à ses enfants. Elle avait inventé ce personnage. Cécile de Brunhoff. Hein. Elle est née en 1903 et elle a vécu 100 ans. C'était
100
une
ans.
Grande pianiste.
Ah oui. Ah oui.
100 ans, c'est vraiment, c'est incroyable. Mais elle était tellement modeste qu'elle a fait enlever son nom de la couverture du livre.
Ah oui.
Et Babar, lui, on le connaît toujours, hein, il aurait 90 ans. c'est un héros qui est devenu universel et il s'est parlé à tous les petits et les grands ouais. enfants que nous sommes, n'est-ce pas, Emmanuel ?
Exactement. Et Babar vit tout seul, sans auteur finalement. Il se suffit à lui-même et Olivier Py ne s'est jamais déguisé en Babar, malgré tous les déguisements qu'il a pu avoir.
Mais
dans
qu'en
sa vie.
Savez-vous ?
Oui, c'est vrai, j'en sais rien. En privé peut-être. Bon, mais... Merci Marie Lequeux.
Merci à vous, au plaisir de vous écouter encore et encore chaque semaine.
Chaque semaine, tous les dimanches à midi sur RTBF, la première bien sûr.
Oui, bien sûr.
Bon, merci Marie, merci à la Bibliothèque centrale du Brabant Wallon à Nivelles en Belgique. Merci à vous. On termine avec un artiste francophone originaire d'un pays membre de l'OIF. Aujourd'hui, un hommage à l'artiste reggae français de La Réunion. Tonton David est mort brutalement en début de semaine après un accident cérébral le week-end dernier à l'âge de 53 ans. Voici son célèbre titre qui a fait le tour de la francophonie en 1994.
Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Déclare que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Levé à 7h du mat, t'es déjà en retard, ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douce ce soir, tu finis de lacer tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté, ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion, je dois être le fou comme je ne suis pas cavalier. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin.
Le peuple était au pouvoir, il n'y avait plus du tout de politiciens. C'était le sou, le bambi des magasins. Tout le monde avait un droit et plus personne n'avait faim.
Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Oh, 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 oh. Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin.
et ça donne. Passe le message à ton voisin et ça donne.
Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont les mêmes que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas.
Un extrait de Chacun sa route de Tonton David, décédé cette semaine à l'âge de 53 ans. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Hélène Bizio avec Michel Bézikian à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France. Nicolas Julliard et Sophie Grécoucho en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. Thierry Dupin était à la prog musicale. La semaine prochaine, la grande auteure de BD Florence Sestac pour sa nouvelle bande dessinée sur sa famille, préfacée par son ami Daniel Pénac. Merci pour votre fidélité. Bon week-end à tous. Salut.